RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Vous écoutez
RMC.
Minuit, 1h, c'est le RMC Poker Show. Daniel Riolo et Moundir.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. Salut Moundir.
Salut mon Daniel, comment vas-tu ?
Très bien, ouais, alors je me sens ce soir un petit peu, bon d'habitude je me sens pas bien grand,
ah.
Mais alors là j'ai l'impression qu'il manque un seul mec et on peut faire un 5 qui a de l'allure.
Là écoute-moi, ouais. On a tout ce qui est power, center, tu vois, il manque un petit meneur et puis c'est parfait.
Alors je sais pas si on va faire une spéciale NBA, une spéciale Pro A, une spéciale Euroleague, mais on a du monde qui aime la balle orange.
Ah, y a du lourd.
C'est nos invités du jour, Rémi Reverchon, salut Rémi.
Salut Daniel, salut.
Salut champion, dire. Salut Rémi.
Alors comment on te présente monsieur US, monsieur NBA sur Bein, monsieur ça, Sport ça US.
Moi je dirais 10 doigts pour 10 métiers.
Il me flatte. Non, ouais, comme tu veux, monsieur basket, monsieur Los Angeles, tout ça, ça me va.
Très bien. À côté de toi, ami, collègue, confrère, ouais. Consultant de la maison de RMC Sport, Stephen Brun. Salut Steve.
Salut Daniel,
salut tout le monde.
Salut.
Évidemment, si vous êtes là, on va pouvoir parler basket, il n'y a pas de problème, mais vous avez aussi pour passion le poker. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Et dans le basket, le poker, autant il y a beaucoup de tennisman qui jouent, des footeurs, on
en a
parlé. Joueurs de basket et en NBA, vous allez nous apprendre des choses.
Jordan,
j'ai dit qu'il n'y avait pas, j'ai dit que j'avais envie de savoir.
Les légendes dans l'avion, ah ouais, Jordan, je peux claquer des milliers de dollars.
Et je peux même te dire qu'il y en a.
Du poker, je crois.
Ah non, mais il y en a même qui.
Il y avait du poker.
Bien sûr, Rodman, Joe Dumars, c'est le mec qui allait claquer énormément.
Voilà, c'est ça que j'attendais, cet échange sur un dossier que je ne maîtrisais pas. Basket, poker. Je maîtrisais tennis, poker, foot, poker, basket, poker, j'en ai un trou.
Il y a eu des bagarres dans des avions, de jeux de cartes, de paris pas respectés, parce que là-bas, ça jouait des 000, des 100 000, des mecs qui payent pas, ça s'est bagarré dans les avions pour des jeux de cartes.
Très bien. Je termine le sommaire et vous me racontez ces histoires, ça m'intéresse beaucoup. Alors, dans un instant, on va avoir sujet forcément plus sérieux et évidemment, ça devient terrible avec la crise sanitaire qu'on traverse et qui ne se termine pas. Ce sont directeurs de clubs et casinos qui sont en souffrance. Et évidemment, ouais. Sébastien Leclerc, le DG du club Circus, sera avec nous au téléphone dans un instant pour nous parler de la nouvelle fermeture des clubs et du référé qu'il a déposé pour éventuellement voir s'il y avait moyen de rouvrir. Et puis Fabrice Père, lui, il est président du directoire du groupe Partouche. Et lui aussi, évidemment, il est en souffrance et pas content. Et aimerait que dans les horaires qui ne sont pas sous le couvre-feu, on puisse rouvrir les établissements. L'actualité, elle est forcément pauvre, elle reste online, Moundir. Ouais. Il y a quand même des choses qui se passent parce que de toute façon, ça va s'accentuer, on ne va plus faire que ça, quoi qu'il en soit.
Ça frappe sur le .com surtout, ça frappe sur le .com avec l'un de nos Français, ils sont frères en plus, il y a Arthur Conan, que tout le monde connaît, qui est un gros grinder, qu'on salue d'ailleurs, qui vient de terminer runner-up du main event sur GG Poker, donc qui est un site en ligne de poker fait par des Coréens, qui est juste monstrueux, voilà. Et il a fait le $530 où, au niveau du tournoi, il y a eu 5581 joueurs, donc ce qui est énorme, et il a fini runner-up, donc deuxième, et il a pris la modique somme de $197,000. Bravo mon pote, c'est super.
Oui, il n'y a plus que comme ça qu'on va jouer dorénavant. Vous jouez-vous beaucoup online?
J'ai joué online beaucoup. J'ai redécouvert ça pendant le confinement là au mois de mars avril, comme beaucoup de monde, hein, moi je pense.
Je pense que c'est là qu'on a un peu pété tous nos records.
Perdu un peu d'argent aussi.
Ça va, tu l'as investi, c'est pas grave. C'est pas grave.
Toi, t'as cassé un ou deux ordi ou non? Tu es devenu plutôt calme.
J'ai gagné en maturité un petit peu, Daniel. Maintenant, quand je prends des bad beats, je ferme l'écran, je vais poser et puis je vais faire un petit tour dans l'appartement.
C'est sûr que si c'est un 16 pouces avec une petite pomme, c'est non, faut pas l'éclater quand même. On continue sur l'actualité poker.
On va laisser passer l'actu parce que nos invités sont là.
Alors.
On reviendra parce qu'effectivement l'actu c'est ça aussi. Ils sont en ligne, donc je disais Sébastien Leclerc, DG du club Circus, et Fabrice Père, président du directoire du groupe Partouche. Les deux sont avec nous. Bonsoir messieurs.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Alors, et avant tout, faisons la différence entre les clubs de jeu et les casinos. C'est différent. Est-ce que dans cette différence, vous êtes traité différemment ou pour l'instant de façon équivalente par les autorités vis-à-vis de la crise sanitaire qu'on traverse? Qui veut répondre en premier? Sébastien.
C'est vrai qu'au départ, on est sur le même sujet. Bon, d'abord, Paris a été fermé le 6 octobre par un arrêté préfectoral. On, on a fait un référé qui a été pratiquement gagné parce que le juge a déterminé que le préfet ne pourrait pas prolonger après la période de 15 jours, c'est un arrêté de 15 jours. Mais entre-temps, il y a eu le décret au niveau du gouvernement, au niveau national. Et donc, fatalement, on est resté fermé au niveau du club. Mais bien entendu, casino et club, pour notre part, c'est le même combat.
Fabrice, cette différence qui, au final, n'en est peut-être pas une parce que le combat est identique, quel est votre point de vue là-dessus ?
Bah, écoutez, on combat pour réouvrir effectivement les établissements de jeu, qu'ils soient club ou casino. Il y a quand même des différences sur lesquelles on va pas s'étendre. La problématique, c'était en fait fondamentalement la différence de traitement que les autorités faisaient pour des salles de jeu par rapport à d'autres activités qui étaient laissées ouvertes, comme les restaurants, les cinémas et les théâtres. Mmh. Alors que, et plus particulièrement pour les casinos, les conditions de protocole sanitaire sont strictes, extrêmement strictes, et de manière absolument indéniable, beaucoup plus strictes que dans des restaurants, des cinémas et des théâtres qui sont laissés ouverts. Et c'est là-dessus, essentiellement, qu'on s'est battu. On est passé devant le Conseil d'État lundi matin. On espère que le Conseil d'État reconnaîtra ça. Ça va être une victoire de courte durée si cette victoire, on l'a aujourd'hui. Mais au moins, ça aura le mérite, lorsque l'activité reprendra, l'économie reprendra, la vie normale reprendra, que les choses aient été mises à plat. Parce que il y a quelque chose d'assez sidérant qu'on peut comprendre, parce que c'est très difficile pour le gouvernement aujourd'hui de prendre des décisions. Tout va vite, il y a une dangerosité extrême de cette pandémie. Il y a quand même des choses qu'il faut mettre sur la table. Et ce qu'on a eu à entendre avec le contradicteur qui était le ministre de la Santé, enfin les représentants du ministre de la Santé, et la manière dont il considère les casinos, c'est absolument effarant. On est habitué dans notre métier à avoir une imagerie, des choses qui sont absolument stupéfiantes, où les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un casino s'imaginent des choses. Là, c'était sidérant. C'est-à-dire qu'on nous a dit clairement que y avait un risque intrinsèque dans les casinos parce que l'essentiel des joueurs qui nous fréquentent, c'était des joueurs, notamment des femmes âgées, qui étaient, et excusez-moi, je galvaude à peine le propos des membres du ministère de la Santé, que ces personnes étaient alcoolisées quand elles arrivaient chez nous. Que même si elles avaient un masque, dans l'euphorie, elles crachaient, et elles crachaient sur les machines, donc il y avait des gouttelettes sur les machines étaient dangereuses, et que comme quand on vient dans un casino, c'est parce qu'il y a un caractère festif, les gens qui reçoivent, c'est-à-dire nous, ne faisions pas appliquer les protocoles sanitaires. Moi, je suis désolé d'utiliser cette image, quand j'ai eu à lire ça, parce qu'en plus, ça a été écrit. C'est des choses, en plus, qui ne sont même pas étayées. Il n'y a même pas d'exemple, il n'y a même pas d'éléments factuels.
C'est diffamant, surtout.
C'est consternant. C'est consternant. Ça abrite des gens, certainement, qui n'ont jamais mis le pied dans un casino.
Fabrice Père, en fait, moi je comprends ce que vous dites. Alors, je rappelle que vous êtes président du directoire du groupe Partouche, donc... histoire de casino, vous connaissez. Je sais pas de quelle façon on peut faire le lien, mais vous savez, quand au mois de mai, fin avril, on a arrêté le sport, on a arrêté le foot sans même discuter. De la même façon, il y a eu des images qui ont été collées. C'est pas bien grave, le sport, ça peut attendre. Et là, je pense que c'est un cap de plus qui est franchi dans la description que vous venez de nous faire. C'est effectivement des images, des raccourcis, des clichés culturels qui sont quand même très durs, j'imagine, à entendre pour vous. Mais pour Sébastien Leclerc qui dirige un club de jeu, c'est la même chose. C'est toujours ramener l'activité du jeu à quelque chose de méprisable, finalement. J'imagine que c'est comme ça que vous l'avez vécu.
C'est totalement méprisable. C'est surtout, si vous voulez, c'est aussi dramatique pour les 15 000 salariés, collaborateurs, les 15 000 familles. Et puis pour les clients aussi, quand on renvoie cette image, quand on va commander. Alors effectivement, il y a plein d'autres secteurs, il y a plein d'autres considérations assez... tristes qui sont données. Simplement, je vous dis, ce combat, peut-être qu'on va l'avoir, enfin ce combat, j'espère qu'on va le gagner et on en jouira que très peu de jours, mais au moins, j'espère que ça aura permis de poser les choses et de montrer une image aux représentants qu'on avait en face de nous lundi matin, différente de ce qu'ils s'imaginaient, et j'espère que ça servira surtout pour le futur. Enfin, c'est une lutte qu'on a, qui est permanente, d'essayer un peu de remettre de l'ordre dans les idées de ceux qui, effectivement, nous, nous gouvernent et prennent des décisions pour nous.
Moi, j'ai une question, justement, pour Monsieur Leclerc. Merci d'être, d'être avec nous, en tout cas. Le fait que vous ayez, justement, fait une forme de regroupement avec certains clubs de jeu, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une forme de solidarité avec tous les clubs de jeu sur Paris, je ne vais pas dire en France, mais sur Paris?
Oui, bien entendu, parce que nous sommes effectivement solidaires pour la réouverture des clubs. Bon, tout le monde n'était pas effectivement là au référendum, mais effectivement, l'ensemble des grands groupes et nous-mêmes étions là pour effectivement se battre contre cette réouverture. Et je confirme exactement les propos de Fabrice. C'est vraiment fou la méconnaissance de ce gouvernement et des autorités au niveau de notre secteur.
Ouais, c'est toujours l'idée que ce sont des moins que rien qui vont jouer, quoi. Qui vont dans les clubs, qui vont dans les casinos. C'est, tu sais, on méprise, en fait, on méprise le joueur. On a une très mauvaise image du joueur et en même temps, on oublie toute l'économie qu'il y a derrière, les gens qui travaillent dans, en salle, dans les restaurants, le personnel d'accueil, l'administratif, enfin tout ce qui fait que cette activité est tout aussi respectable qu'une autre. Mais on la dénigre et je dis encore une fois, on assimile ceux qui vont jouer à des moins que rien, à des gens de petite vertu. Voilà. C'est la vieille image, je sais pas, du saloon, quoi, à la limite. On en est là.
Alors, c'est très, extrêmement différent.
Alors, c'est une image. Ouais. Pardon, vas-y, Sébastien, excuse-moi.
Ouais, je dis aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut que le jeu soit encadré. Et il est encadré chez nous. Il est régulé. Là, l'interdire, comme c'est fait pour le moment, tout simplement, il va retourner dans le clandestin. Hein, on parle de Paris, également dans d'autres zones, mais surtout à Paris. Donc, effectivement, nous fermer, alors qu'on a des protocoles qui sont vraiment les pratiquement les plus stricts. Hein, c'est vraiment de l'incompréhension. D'autant plus qu'il y a une importance, c'est vrai que c'est important la santé, et on est derrière, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a mis des protocoles importants, mais il y a effectivement l'économique, la fermeture de l'ensemble des casinos et des clubs, j'ai fait un petit calcul, c'est 10 millions d'euros que ça coûte à l'État par jour.
Mmh. Ah ouais, par jour.
Oui. Par jour, quand on compte l'activité partielle et quand on compte effectivement ce que se rapportent les casinos, les casinos rapportent en prélèvement des jeux 500 millions d'euros minimum par an.
Fabrice, vous aviez quelque chose à ajouter sur ce point.
Ce qu'il faut reconnaître encore une fois, bon, malheureusement, je vous dis, des décisions sont prises, elles sont prises vite, elles sont prises par des gens qui ont des monceaux de décisions à prendre. Oui. L'important, c'est que au moins ce combat au Conseil d'État est servi à ça. Ce qu'il faut quand même reconnaître, et je n'arrête pas de le répéter, ces gens prennent des décisions difficiles. Il n'y aura pas de contestation là-dessus. À partir du moment où il y a un traitement équitable par rapport à d'autres activités. Maintenant, ce qu'il faut aussi reconnaître, et je l'ai fait à plusieurs reprises, il faut aussi remercier cet État qui, d'un côté, a un mauvais point de vue sur la réalité de nos activités, la réalité sanitaire de nos activités. Il faut grandement le remercier pour les dispositions qu'il a prises, et notamment l'activité partielle, qui sauve certainement notre secteur à l'heure actuelle, qui vont éviter la casse sociale, qui vont peut-être éviter des licenciements, comme on en entend par exemple chez Sodexo, dans des activités qui sont par contre irrémédiablement touchées. Il y a un côté obscur des décisions qui sont prises. Nous reconnaissons tout de même que sans l'aide de l'État, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui pour vous parler, et on ne serait peut-être pas là demain encore pour vous parler.
Ok, merci beaucoup Sébastien Leclerc, DG du club Circus, Fabrice Père, président du directoire du groupe Partouche. Bon courage à vous et souhaitons évidemment que tout cela passe.
Bonne soirée.
Au revoir.
Voilà. Bon, ben.
Ah, c'est pas drôle. Hein.
Oui. C'est ce qu'a dit Fabrice Père quand même. C'est toujours cette fameuse image du mec qui va jouer en casino. Ah là là.
Ouais, mais le problème c'est qu'en casino.
J'ai l'impression que c'est le dernier des derniers qui va jouer, qui est alcoolisé, limite qui a son trafic de drogue qui l'attend dehors, qui a le flingue dans la voiture.
Ouais, intelligence.
Ouais, vous avez fréquenté les établissements de jeu, les amis. Ça, c'est
sûr. Hein.
Je sais même pas si ça a existé. Ça a pu exister. Mais stop quoi maintenant quoi, avec ces choses là.
Quand tu vas au casino. casino, tu, en temps normal, surtout sur ceux de Partouche qui reste une institution, tu sais, tu vas, la plupart c'est familial. Tu sais, tu vas là-bas, tu vas manger un bout, ensuite il y a les animations, il y a les animations. Pour celle qui veut mettre un euro, enfin, qui va mettre 50 balles dans la machine à mémé, tu vois, le coût à 20 centimes, tu vois. Tu sais, c'est pas, non, mais tu sais, c'est pour ça qu'il y a toutes les mémés de la Dream Team, tu sais, à chaque fois, tu vois, avec leur petite retraite à côté, tu vois. Mais c'est vrai que c'est hallucinant et ça fait très peur. Ça fait très, très peur.
Allez les amis, on marque une première pause hein, sur RMC Poker Show. On revient dans un instant avec nous, Moundir, ce soir, Rémi Reverchon, Mister US, Turbine, NBA et Stephen Brun, consultant RMC Sport. Nos invités pour cet esprit totalement NBA avec toi en plus, parce qu'il faudra que vous nous fassiez un petit peu une carte d'identité basket dans ce RMC Poker Show. À tout de suite.
RMC Poker Show, Daniel Riolo et Moundir.
La suite du RMC Poker Show, Moundir est là évidemment, et nos invités ce soir, Rémi Reverchon et Stephen Brun. Bon, allez, c'est le moment de faire le lien basket-poker, parce que là, pendant les pauses et tout, vous arrêtez pas. Moundir, depuis le temps quand même, il faut rappeler un petit peu ta carte d'identité basket. Moundir, ça n'est pas que Koh-Lanta.
Non,
l'apex de ta carrière, c'est Koh-Lanta.
Son prime, c'est je veux trouver l'amour.
Première télé-réalité, Moundir, l'aventurier de l'amour. L'aventurier, parce qu'avant l'amour, il y a l'aventurier.
Il faut faire un point global. Et avant tout cela, il y a le basket. C'est une passion. Il n'y a pas que l'aventure dans ta vie. Le basket.
Ça a été plus qu'une passion.
Allez, fais valider ta carte d'identité par Rémi et Steve.
Eh ben, joueur de National 2, voilà, avec et puis j'ai réussi à une époque où j'avais des rêves américains, j'étais parti à Coral Gables où j'avais fait un stage à West Point, après à Rogers College du côté du New Jersey, voilà, et j'avais des rêves plein la tête. Après j'ai forcément, en revenant en France, je me fais shooter par un scooter sur un passage piéton où j'ai une fracture du tibia ouverte, et donc voilà, 18 vis, et puis il fallait vite s'asseoir et pour trouver un métier.
Je crois que tu allais me sortir ton fameux les croisés, tu connais.
Non, pas du tout. Bah, tu vois, la chance que j'ai eue en tant que basketteur, hormis le scaphoïde, j'ai jamais eu les croisés ou les chevilles. Tu vois, ça a été un accident de.
Quel poste?
Ah, j'ai eu deuxième arrière et meneur.
Deuxième arrière à droite ou deuxième arrière
Je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, hein, Bercy. Il y en a qui s'en souviennent encore.
Tu jouais où en N2, on dirait ?
J'ai fait Poissy-Château-Charenton. Tu vois, ils avaient
fusillé. Charenton, mais c'est incroyable, j'ai joué à Charenton moi aussi.
Vous êtes pas croisé.
C'est fou. D'accord.
Mais je pense que je suis un peu plus vieux que toi.
Bah, je suis plus jeune, je suis de 85, j'ai 35 ans.
T'as l'âge de mon petit frère, j'en ai 47, 73. Ouais, j'ai connu un petit peu les belles années.
Ah, toi, c'était l'époque du short moulin?
C'est plutôt les champions de France. Quand j'allais voir le Racing Club de France jouer à l'époque avec Abdul Shamshimdin, qui est un Américain, qui était, tu vois,
énorme dunker,
et puis avec une espèce d'aisance et compagnie, c'est vrai qu'ils avaient des shorts qui nous faisaient rêver. Enfin, il y avait aussi Courtinard, il y avait aussi le papa de Rudy Gobert qui jouait là-bas. Donc effectivement, il y avait même Ufnagel qui était parti, Freddy Ufnagel. Donc
tu jouais en Chuck Taylor, toi, à cette époque-là, non?
Ah bah Converse, j'étais un gamin, mais j'étais un gamin. Ben moi à l'époque.
T'as joué en Converse?
Non, j'ai pas joué en Converse.
Parce que, jouer en Converse, j'ai joué en Pony. Images en noir et blanc. Hein.
J'ai joué en Pony.
Barla en Converse.
J'ai joué en Pony, une marque PON.
En quoi? En Pony.
Oui,
c'est Michel Blanc dans les bronzés.
Pas du tout.
Si, il est en Pony, je te dis. Il a un t-shirt Pony.
Tu sais c'est qui joue en Pony en NBA?
C'était une fausse marque.
Non, il s'appelait Spud Webb, qui faisait 1m59 et qui avait gagné le concours de dunk.
Oui, ça.
Spud Webb.
Rien à voir avec le joueur Atlanta qui était les meneurs.
Maxibox,
c'était Maxibox.
Il avait quelques centimètres de plus.
Ouais.
Genre plus petit que moi, le mec il dunkait.
Ah bah ouais, comme Napoléon.
Il a gagné concours de. Bah il a pas des dents, voilà.
Sans le petit trampoline,
appel de pied.
Incroyable.
Très très fort. Non, voilà.
Bon, puis, carte d'identité validée.
Ouais,
aussi,
c'est bien validé. Sûr, c'est validé.
Là, c'est la famille du basket.
C'est la famille du basket. la grande famille.
C'est un cousin éloigné.
C'est drôle.
Ah, National 2, c'est ça.
C'est correct, National 2.
Quand même, quoi. Je suis flatté parce qu'un jour j'avais été invité à Bercy, tu sais, pour faire un match, tu sais, exhibition pour. Avec les personnalités, il y avait Crawford Palmer contre qui et donc moi je débarque, tu sais, ils pensaient voir un petit rigolo de télé-réalité qui débarque et tu qui voulait passer un bon moment. Bon, quand ils ont vu que le mec, quand il défendait pas, d'ailleurs je le salue, il s'appelle David Cosette.
C'est un ami.
Allez. Quand tu en as pris toi de suite, bon, je lui dis, si tu me défends pas de suite, tu vas en prendre 50 ce soir. Et puis après,
en fait, ce que tu as compris, c'est qu'il défendait vraiment.
et donc c'est vrai. Et puis après, quand j'arrive, il me parlait, il me dit, est-ce que tu joues au basket? Je dis ouais. Voilà, donc on a passé un super.
Il a joué un peu, David? Basket?
David,
il a commenté.
Il est dégueulasse. Hein. Il est sans pitié. Hein. Ah, le mec, il a mis le pull de la Grèce. Il est pas, il est en train d'envoyer. Hein.
C'était l'époque. Est-ce que cette époque-là, on regardait moyen la NBA parce que
quoi
ça passait pas. Non, mais ça passait pas.
Tu rigoles.
Dans les années 80, ça passait.
Je vais te dire.
Eh ben là, on parle de quoi là?
Mais on se levait. Mais on se levait le soir.
Moi, ils sont enregistrés en National 3 quand je vais voir les matchs. La NBA, je sais à peine ce que c'est.
Daniel.
Bon, ça passe pas à la télé à l'époque, dans les années 80.
À l'époque de N1 et compagnie, tu vois, toutes les mixtapes de N1 et tout ça, machin, on se levait le soir comme les gens se levaient pour la boxe pour Tyson à 3h du matin, d'accord? Ouais. Ben, nous, on se levait pour les finales à l'époque, tu vois, quand c'était Lakers Chicago, après Portland, après. Non,
c'est vrai, mais tout ça, ça arrive plus tard, c'est les années 90. Oui, ouais. Toi, Daniel, c'était les années 80. La NBA arrive sur Canal en 85, au tout début de Canal, et à l'époque, c'était donc Georges qui est récupéré par Bruno Poulain, et ils commentent ensemble sur cassette bêta. Les sur la cassette bêta, les énormes cassettes là, à l'époque que Canal recevait par courrier de la NBA, donc ils commentaient un match qui avait genre 15 jours déjà.
Mais à l'époque pour regarder des statistiques, il y avait un magazine qui sortait une fois par semaine avec des box scores, tu passais ta journée à regarder les stats parce qu'il y avait rien, il y avait un match ou deux matchs dans la semaine.
C'était quoi, c'était 5 majeurs à l'époque? Non, c'était 5 majeurs.
Ouais, il y a eu Basket Hebdo,
Basket News,
cassettes Pontel avait envoyé des cassettes en France.
Rien à voir avec Patrick Montel.
Non. Mais la NBA, c'était quelque chose de tellement rare que dès qu'il y avait un match, tout le monde se levait pour.
Il y a un point commun avec le poker, c'est que le poker a débarqué de la même façon sur Canal avec des tournois qui avaient parfois un an.
Ouais, WPT.
Des tournois qui avaient combien de temps?
Bah, il y avait pratiquement même plus.
Mais on les connaissait pas, personne les avait vus, tu vivais ça comme si c'était en direct. Et là, on parle quand même du milieu des années 2000.
Voilà, c'est beaucoup plus tard, c'est ça qui est étrange. Parce que là, le basket, quand je vous raconte ça, c'est les années 80, dès les années 80.
Oui, donc ça peut faire un peu préhistoire acceptable, mais te dire qu'en 2005, 6, 7, quand on regarde avec Bruel le poker sur Canal, dis attends, le tournoi il a un an, mais après tout, t'en savais rien du tout. Mais même aujourd'hui, si on te met, alors que tout le monde, par le biais du streaming, peut suivre en direct une évolution de tournoi, moi je suis désolé, si on me met un tournoi de poker, un EPT qui a un an, il y a peut-être des pointus, des passionnés qui ont vu les mains. Mais je suis sûr que si on ne dit pas, tu le regardes sans problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui freine beaucoup de diffuseurs qui disent, ouais, on remet pas le poker comme Canal à l'époque à la télé parce que c'est des tournois qui ont quelques mois, surtout que maintenant, tu peux en plus les diffuser 15 jours après, un mois après. Ça va, si t'as pas bouffé tous les streamings, t'es pas au courant de ce qui s'est passé forcément.
Non, mais c'est sûr.
C'est pour ça qu'on devrait le relancer.
Ouais, mais on parlait du basket.
Pourquoi pas?
Était plus rentable à l'époque. À une époque en télé, le basket était plus rentable. D'abord, c'était une toute petite niche, c'est très rare. Hormis Canal, c'était pas éventuellement France 2 à l'époque quand ils avaient fait la finale de l'Euroleague.
Bah, demande. Rémi, il est là pour te répondre. La NBA, ça marche la nuit.
La NBA, ça marche maintenant.
Ça a une image fantastique, mais est-ce que vraiment les gens se lèvent?
Ouais, la NBA, elle va en poupe depuis 2-3 ans. Là, il y a une vraie dynamique NBA. On le voit par plein de signaux, par les abonnements qui marchent bien chez nous, par le retour des réseaux sociaux, par la NBA qui vient jouer un match à Paris, qui devait revenir cette année, mais qui a priori viendra pas à cause de ce qui se passe, mais qui reviendra sans doute l'année prochaine. Il y a plein de choses comme ça. Après, nous, on est quand même.
Après, l'émission de l'après-midi, elle permet de raccrocher.
Bien sûr, parce que c'est notre idée. C'est
moi,
que
mon fils qui est ado, il se lève pas la nuit pour voir les matchs. En revanche, il te rate pas l'après-midi, il regarde les trucs.
Tout le monde ne peut pas se lever la nuit. Il y a des gens normalement constitués qui ont un métier, qui ont besoin de dormir la nuit, mais du coup, on a toutes les rediffs la journée, on a l'émission du jour. Mais on est quand même le seul sport au monde où il y a une fracture là, parce que tu me parles, Mounir, toi, de France Télé et tout, qui diffusait ce qui était la proa à l'époque.
Ouais.
Et on est quand même le seul sport au monde où tu as l'impression qu'on est divisé. C'est presque deux sports. La NBA, c'est un sport, et le basket en France ou en Europe, c'est ce qu'on appelle le basket FIBA, est un autre sport. Alors j'ai l'impression que le poker, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, le basket, on a cette fracture assez étrange. Ouais.
Et alors, comme je le disais tout à l'heure en ouverture de l'émission, autant je fais des liens faciles entre pas mal de sports et le poker. Le basket, j'ai pas beaucoup d'histoires. Alors, parlons. Ben justement, vous allez m'en raconter, mais des grands noms du basket NBA qui jouent au poker et qui ont des histoires, des parties.
Mais t'en as plein. Et je peux te dire, je te conseille de voir un reportage qui a été à l'époque sur NBC qui parlait justement des 60% de joueurs NBA qui sont broke, qui ont tout perdu, d'accord. Et la plupart des joueurs, tu vois, tu prends des mecs comme Joe Dumars ou Derrick Coleman et compagnie, c'est des mecs qui ont énormément joué au poker, ou casino au poker, et qui mettait des sommes hallucinantes. À défaut de les mettre chez les stripteaseuses où ils balançaient des 30 000, 40 000 dollars, tu vois, un peu comme Allen Iverson qui avait tout perdu, qui s'est retrouvé en Turquie pour jouer alors qu'il était broc de chez broc. Mais il y a énormément de joueurs, Marc Aguirre et tout ça, tous les anciens de.
Même Scottie Pippen a été sur
Scottie Pippen, oui, bah ouais, lui qui a
aidé. À cause du poker.
Non, parce qu'il a fait des placements pour acheter des avions.
Des mecs qu'on a vu à Vegas au WSOP qui sont allés, comme on voit certaines stars qui vont s'asseoir.
J'ai vu John Saleh, moi, au WSOP à Vegas, donc qui est un ancien de Détroit, et après il est parti aux Lakers. Mais j'ai vu qui encore, un ancien de
Los Angeles. Des mecs comme Jordan, Rodman, j'imagine, à une table de poker, Rodman.
Bien sûr. Ouais, mais après, les mecs sont des joueurs compulsifs, c'est des compétiteurs, donc ils peuvent jouer à ça, ils peuvent jouer au backgammon, ils peuvent jouer à ce que tu veux, en fait, tu vois, au blackjack, bien sûr.
En fait, ils cherchent l'adrénaline, c'est des mecs qui ont de l'adrénaline sur des matchs.
Comme toi, Steve, quand tu te mets au poker, tu vas retrouver l'esprit.
Enfin, eux, pour avoir de l'adrénaline, il faut qu'ils mettent des 500 000.
Ça, toi, tu mets un 50 balles, tu fais un petit tour en ma famille, t'es bien.
Le mec, il sort la carte électron, tu sais. Non, mais c'est sûr qu'en plus, bon, c'est les grands enfants aussi, hein, tu vois. Donc, les mecs, pour un rien, ils te font des bêtes. Un peu comme au poker. Regarde, vas-y, reste enfermé dans la salle de bain pendant un mois et c'est $1 million. Donc, le mec devait rester dans une salle de bain pendant un mois, lumière éteinte, et il lui filait $1 million. Tu te souviens le bet avec Esfandari et tout ça? Donc, où il devait perdre peut-être aussi 25 kilos, il lui filait, je crois, entre.
Ah, tu veux dire ce genre de pari-là, le mec enfermé un mois dans la salle de bain dans le noir.
Totalement, tu vois, c'est des grands enfants aux États-Unis. Hein.
Mais ce jeu de cartes, j'en parlais tout à l'heure, a amené beaucoup de conflits. L'histoire la plus connue, c'est à Washington, dans un avion avec Gilbert Arenas qui parie de l'argent avec, comment il s'appelle,
Crittenton. Javaris Crittenton.
Crittenton, le mec paye pas, hop, le lendemain, ça ramène des guns dans le vestiaire parce que ça paye pas les dettes, quand même. Donc ça va loin.
Et ils jouent ensemble, les mecs, en plus.
Ils jouent ensemble.
Mais Rémi, toi, ta culture US, parce que t'as une vraie culture US, t'adores ce pays, t'y vas souvent. C'est là-bas que t'as découvert le poker ou c'est ici?
Alors, moi, je suis amateur, mais moins connaisseur que vous tous, là, ici, de poker. Mais moi, j'ai découvert ça, comme j'imagine la plupart des gens en France, à la télé, comme tu disais, Bruel, Canal, etc.
Et c'est après que t'as voulu jouer sur place.
Et je me suis. Alors, moi, j'ai eu la chance pour mon taf de partir vivre. J'ai vécu 3 ans à Los Angeles de 2009 à 2012. Et une fois là-bas, le truc, je vais pas vous l'apprendre, la géographie américaine de Los Angeles, c'est que t'es à 4 heures de route de Vegas. Et
tu loues une bagnole et c'est
voilà,
parti.
Et en 3 ans, je compte pas la vingtaine, trentaine, quarantaine de week-ends que j'ai fait avec des potes où on craquait un vendredi, viens, on part à Vegas, allez, on part à Vegas. Et on partait sur un coup de tête comme ça. Et les premières fois de ma vie où je m'assieds à des vraies tables de poker, en cash game principalement, c'était à Vegas.
Et alors
comment ça se passe?
Je me souviens de ma. Je peux vous raconter ma toute première fois, mais vous allez m'insulter. Hein, mais ma toute première
au poker,
fois.
Au poker.
Ah ouais, mais on se souvient toujours aussi.
Je m'insulterai peut-être aussi. Pour ma première fois au poker à Vegas, je me retrouve avec un pote, donc on part.
Attends, quel casino, quelle table?
Alors, on arrive au Luxor. On avait pris une chambre au Luxor qui coûte pas très cher.
Ouais, il est un peu pourri le truc.
Voilà. J'avais 24 ans. On n'avait pas une thune et tout, tu vois, on se prend une chambre pas chère et tout. Et on descend avec un pote.
Le Luxor, c'est là, t'as l'espèce horrible. De sphinx,
la pyramide,
la fausse pyramide,
et sandwich à $3. Toi,
exactement. Et bref, moi j'arrive avec Cass, c'est ma première fois. J'adore, je vois le strip, les lumières, je suis comme un fou, je suis dans un film. Et donc on arrive au Luxor, on fait le check-in, on pose des affaires dans la chambre, on descend direct au casino. Et moi je dis à mon pote, écoute, c'est mon rêve, je veux aller me mettre à une table de poker. Il me dit, vas-y, on va au poker. Là-bas, bon, il y avait des tournois, machin. On se dit, on tente le cash game, ça nous semble plus simple et tout. On dit, allez,
vu le début de l'histoire, tiens, le mec, il est tellement à bloc. Ouais. Si ça sent pas un all-in dans les deux premières mains.
Non seulement il va y avoir le all-in, mais c'est la suite où vous allez m'insulter. Ouais. On se met à une table au blind basse, hein, 1 et 2 dollars.
Ah, c'est pas mal, déjà.
Tu rentres
les tables Mundir, ça, les 1, 2, c'est. Ouais.
T'as pas en dessous, de toute façon, je crois, à Vegas.
Et donc, en dessous, c'est chaud quand même.
En dessous, tu te retrouves au million
avec. Tu joues à la cave.
Tu rentres avec tes 100 dollars. Je pose mes 100 dollars sur la table. Ouais. Donc j'arrive à une table où tu sais, ils se séparent et que je suis pas avec mon pote à la table, évidemment, t'as plein de tables. Je me retrouve à une table avec que des gens que je connais pas. Je suis un peu, tu vois, en état de l'adrénaline et
le cœur s'accélère.
Et ça fait bizarre d'avoir un vrai dealer, etc. Des mecs sérieux autour de toi, tu vois, qui ont tous des stacks à 400, 500, 700 dollars, t'es pas bien. Et donc j'arrive, je suis un peu stressé, je laisse passer une première main, je laisse passer une deuxième main, Et sur la, je sais pas, je veux pas romancer, mais troisième, quatrième main, peut-être, je reçois, je suis servi une paire de rois. Donc là, tu vois, le cœur qui bat un peu vite, là.
Ouais. La petite goutte.
Tu dis, c'est le moment de payer ma semaine de vacances.
Ouais. Tu dis, là, bon, il faut soit malin, faut y aller. Donc je me souviens que je relance de pas grand chose parce que je tremblote un peu. Je relance, je sais pas, d'une blinde avant le flop. Je suis suivi par un mec, par deux mecs. On se retrouve à trois, aller au flop. Et là, au flop, je m'en souviens très bien de ça. Il y a un as qui sort, un roi. Et je sais plus, hein, 7 à 8, un truc inintéressant.
Ah bah t'es bien.
Et donc je vois ça, je suis en sang. Moi, dans ma tête, je bouge, je me dis reste calme, reste calme, reste calme. Mais l'adrénaline monte. Et je me souviens que je parle en dernier, ça je m'en souviens très bien. Le premier mec relance.
Bête.
Okay. Il bête de je sais pas, il bête du.
Là,
de,
à ce stade-là, le déo est flingué.
Ben là, ouais, là, dans ma tête, ça va très vite. Le premier bête, le deuxième le colle. Okay. Et du coup, j'arrive en troisième. Et bon, moi, je fais peur à personne avec mon tapis de sang. Je mets mon tapis. Donc là, les mecs me regardent, ils voient le touriste arriver.
Fucking French guy.
Ils sentent à tout ce kilomètre, je pense. Et donc, les deux me collent.
Oh, c'est oh là là, le bonheur. La doublette. La doublette.
Je suis en sang. Hop, on retourne les cartes. Non, pardon, je retourne. Enfin, bref, le coup se poursuit. Je gagne la main.
Ok.
Donc je prends mes 300 dollars, je suis en feu et tout. Et là, je fais le truc que font tous les débiles de touristes qui connaissent rien au poker.
Je joue encore.
Je suis en stress de fou. Non, une main passe. Je suis tellement en stress que je la jette. Une main passe. Je la jette. Et puis là, je me dis. Oh fuck it, je me lève et je dis bonne soirée messieurs et je me casse avec mes 300 dollars comme ça et tout le monde me regarde, t'as vraiment fait ça? J'ai passé genre 4 minutes à la table, j'ai pris mes deux voilà, j'ai
pris
mes deux.
Tu as le droit?
Oui, t'as le droit.
C'est mal vu quand même.
Non, ils m'ont mal regardé.
Non, mais
c'est petit slip, c'est petit slip quand même.
Les gars, c'est pas.
Non, mais tu restes et tu fais semblant quoi. Tu restes, tu fais semblant de jeter 10 mains. Une, tu fais juste un limp. Ah merde, je peux pas le jouer ce coup là. Tu maquilles, Moundir. Tu maquilles.
Daniel.
Tu maquilles, t'as lâcheté.
Tu es un homme de plume et tu as voyagé. Quand tu rentres dans ce genre de table, c'est-à-dire quand tu viens, tu t'inscris, ils te disent au desk, ils te disent voilà, cette table-là, c'est minimum 2 heures. Cette table-là, c'est minimum 1 heure. Et il y en a d'autres tables, c'est libre, tu peux arriver. Parce que si tu pousses tes 100 dollars et que tu perds, tu te lèves.
T'es comme un con, ouais.
Le mec, il va pas te regarder chelou. D'accord? Donc il va te dire ok, ben merci pour ton oseille. Donc il y a des tables où t'as le droit.
Pas, tu peux pas, je te dis, tu maquilles.
Oh. Mais tu maquilles quoi? Donne-moi ton argent, je m'en vais, c'est tout.
Je suis tranquille. Je suis parti, j'ai dépensé mes 300 dollars.
Dis-moi que t'as changé d'hôtel, tout de suite.
Bah, après, il est parti au strip club.
C'est dégueulasse. Ah, mais, belle expérience, hein. Mais, Steph. Petite expérience peut-être.
Petite expérience. Alors écoute, moi, mon poker. Alors, en 2003, je suis invité par Tony Parker au final NBA quand il joue contre les.
Ah bah ça va. En 2003,
personne joue au poker.
Bah écoute, j'arrive chez Tony Parker. Donc à l'époque, il était en couple avec Eva Longoria et un jour se passe, 2 jours, 3 jours, il me dit ce soir, Steph, on fait un poker à la maison. Il y aura du beau monde et tout ça.
Ça fait nous appeler.
Et là, enfin quand Tony Parker te dit on fait un poker, je lui dis on joue de l'oseille. Il me dit ouais. Et là toute la journée. Je suis pas bien parce que je me dis bon si ça va au-dessus de 100 dollars.
Ah ouais.
Arrive 18h, les invités arrivent, il y avait Terry Crews qui est un acteur tu connais, il y avait Terrence Howard qui est un acteur aussi, il y avait Eva Longoria, il y avait Boris Dio, il y avait Ronny Turiaf et ces mecs là ils sont millionnaires et moi j'arrive là et je dis à Fanny mais c'est quoi le buy-in? Il me dit 100 dollars et là j'étais content gros. Et là j'ai joué
100 dollars.
J'ai sorti Terry Crews, j'ai sorti Terrence Howard. j'étais en feu et c'est la plus belle partie de poker enfin au niveau du casting autour de la table avec qui j'ai joué.
C'est beau putain beau. Ouais. Franchement, c'est beau. Ça, c'est énorme. Ah ouais. T'aurais mis Daniel là, écoute là.
T'as eu peur qu'il t'annonce un buy-in à 1000 ou 2000.
Ah oui, bah, là, j'ai dit, bah écoute, je
vais. 1000 dollars, tu l'es. Franchement, 1000 dollars, tu les mets pas.
Je les mets pas, gros.
Qu'est-ce que tu fais avec ton oseille?
Je vais te saigner sur le buy-in.
Bah, en 2003,
2003, ouais.
Ah, t'étais en contrat de calife à cette époque-là.
j'étais au BCM, Gravelines Dunkerque.
Ah putain, ouais. Ah ouais, 1000 dollars. Putain, 1000 balles, t'achètes un là-bas.
Le buy-in à 1000 dollars, j'ai dit, écoutez, moi, je sers à boire. Je me regarde jouer.
Ah là là.
Bon mais les amis, on va jouer non maintenant quand même.
Ah notre cher producteur
dans la tête d'un fiche. Jérémy.
RMC Poker Show
dans la tête d'un fiche.
Et on a Ben Polak qui est avec nous.
Oh là, quel casting de fou.
Champion, il est là.
Oh là 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 là. Alors là, mais moi, quand il y a Ben Polak avec nous, forcément, quand je dois prendre les décisions, j'ai un peu la sueur au front parce que je veux pas me tromper. Parce que forcément, c'est un petit peu mon totem.
Ah ouais.
Eh, hein. Hey, Moundir, toi, t'as trouvé le tien la semaine dernière.
Ah bah ouais. Hein. Monsieur Fitoussi.
Quand même. On n'a pas la phrase, on n'a pas eu le temps de la
quel
monter.
Dommage, encore, c'est
petite phrase. Tu te rends compte, Benjamin, que Bruno Fitoussi, alors de mémoire, a dit à Moundir, deux points, ouvrez les guillemets, ouais, mais.
Te trompe pas, je la connais par cœur.
Ah, tu la connais par cœur? Bah, dis-la si tu la connais par cœur.
C'est une excellente approche.
C'est une excellente décision, Moundir.
Une excellente décision.
Ou question?
Ouais, ou c'est pareil?
Non, c'est une excellente question, c'est moins valorisant. Ça veut dire qu'il est encore dans le questionnement.
Finalement, tu la connais pas bien pour l'argent. Il bosse dans une libraire. Oui, c'est très bien.
C'est une excellente décision.
Une excellente décision.
Qui équivaut à peu près à la phrase légendaire de Ben Polak à mon égard. poker que j'ai encadré dans ma chambre. Voilà. Benjamin, merci beaucoup d'être avec
nous. Merci mon pote.
Merci les gars, je suis là avec plaisir.
Bon Ben, tu vas jouer le rôle d'arbitre. On va jouer à Barcelone ce soir, le main event de l'EPT, tournoi à 5 300 $. Oui. Je suppose que personne n'a joué ici pour l'instant.
Non, j'ai hésité, mais je ne suis pas allé.
Ben, tu l'as joué plusieurs fois. On n'est plus que 27 joueurs sur les 1988 au départ. C'était une édition complètement folle. On est assuré de 42 000 euros d'ailleurs de gains et le vainqueur empochera 1,3 million. On est 8 joueurs à table. On est UTG plus 1, donc deux places après la grosse blinde, avec un tapis de 4,4 millions de jetons. Daniel prend toutes ses notes, vous avez vu?
Bah oui, c'est normal.
On est aux blindes 25 000, 50 000, donc on a plus de 80 blindes.
Ah oui, on est frais.
Et on ouvre Valet 10 de cœur.
Ah.
Combien on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On rentre dans le coup.
Valet 10 de cœur.
125 chez moi.
125 chez Moundir.
Effectivement, je rentre dans le coup avec quelque chose de très standard. On a dit qu'on était quoi? À 50? À 50 000? T'as dit combien?
25, 50 000.
Ouais.
125, 150.
Ouais, messieurs, Rémi, Stephen? Non.
Moi, je suis plus safe, j'aurais mis 100, je pense, mais.
100, ouais.
Juste fois 2?
Ouais, moi aussi, fois 2.
Ben, on t'écoute.
Tout est bien. Bah, en fait, tout est bien ici. On a 80 blindes, mettre 2 blindes, 2,2, 2,5. En fait, cette décision va certainement dépendre de la hauteur du tapis de la big blind. Voilà, si par exemple la big blind n'a que 10 blindes, on va peut-être mettre 2,5 pour éviter qu'elle défende trop, ou vice-versa. Donc après, voilà, 80 blindes, c'est large, donc la décision n'est pas très impactante. Voilà.
Bon, on a raise à 110 000. C'est payé par le bouton qui a un tapis de 1,2 million de jetons. Et c'est payé également par la grosse blinde qui a un tapis de 3,4 millions de jetons. Le pot fait 405 000.
Tu peux juste me dire, les deux qui sont rentrés dans le coup au niveau des tapis, ils sont comment?
Le bouton, il a 1,2 million de jetons. Nous, on a 4,4 millions.
Ouais, ok.
Et la grosse blinde qui rentre aussi a 3,4 millions de jetons.
D'accord. Il y en a un qui est quand même, la grosse blinde est bien et l'autre, il est un peu petit. L'autre.
Mais nous, on est au-dessus des deux.
D'accord.
Le flop vient 9 de trèfle, 9 de cœur, 10 de pique. On a deux paires. Check de la grosse blinde. Et c'est à nous de parler, messieurs. Pareil, je vous écoute.
Comment ça, on a deux... Ah oui, deux paires, les deux neufs.
Je check également. Check back. J'aime pas bête sur un sur.
Attends, la grosse blinde à check.
La grosse blinde à check.
Je check chez moi. Je calme au fond 10.
Je suis assez d'accord. Moi, ça me fait peur aussi. Je check.
Stephen.
moi, j'ai envie de miser.
Ouais, tu penses que t'es devant.
Je pense que je sais que je suis devant surtout.
Tu sais que tu es devant. Il est omniscient. Ben, on t'écoute.
Moi, je vais miser.
Moi aussi.
Les deux. Bah, en fait, je vais vous dire, les deux décisions sont bonnes. Après, c'est pour quelle raison vous avez envie de le faire, en fait. Check, c'est bien parce que vous pouvez peut-être induire un bluff et il y a très peu finalement de scary cards qui vont tomber sur la turn. À part dame, roi et as. Et encore, s'il y a une dame ou un roi, bon, du coup, avec le valet, on peut avoir tirage quinte. Donc, notre main n'est pas forcément dead. Mais on a beaucoup plus d'intérêt, je pense, à check ici pour pouvoir laisser peut-être induire un bluff à la petite blinde ou leur laisser faire une petite paire à terme. Donc il y a plus de sens de checker, je pense.
Et là, pour le coup, puisqu'on est le premier à avoir misé dans ce coup-là, Benjamin, il n'y a pas de c-bet automatique, de se dire j'ai commencé, j'ai ouvert dans le coup, je fais un c-bet assez classique qui, en gros, ne signifiera pas grand-chose et n'enverra pas réellement de message à l'adversaire, si ce n'est que on c-bet et que donc les mecs peuvent se dire bon, il c-bet parce qu'il a rien touché, il c-bet parce qu'il a touché, il c-bet tout simplement. Alors, finalement.
Ouais, bien sûr. Le seul problème, c'est qu'on a une main qui va mal supporter beaucoup d'actions. C'est-à-dire que si on subit un check raise et puis un deuxième barrel, etc., on a une main qui supporte mal ce genre d'action, alors qu'on a quand même une main qui est faite et qui sensiblement peut créer de l'action par un draw. Donc c'est embêtant. Donc si on se fait check raise par valet dame, par 7 et 8, par valet 8, même valet 7, si la personne est vraiment light. Donc c'est embêtant d'avoir une main quand même qui est assez forte, on a deux paires. Mmh. Donc on veut pas créer trop d'actions vers des personnes qui peuvent le faire avec des tirages. Mmh. Voilà.
D'accord. Donc là, pour le coup, finalement, qu'est-ce que tu préconisais, même si les deux solutions sont...
J'aurais préconisé un check, sachant qu'on est quand même, tout le monde est assez deep. Mmh. Et puis voilà, et puis on peut laisser la parole au bouton et à notre tour, on peut même des fois, on peut tourner notre main en bluff plus tard. Mmh. Mais en tout cas, je pense que c'est bien de check.
Bon, après, moi, je demande ce que Ben préconise. Et puisque le jeu, c'est de dire ce qu'on aurait fait, je pense que là, moi, j'aurais c'est bête.
Ok. Mmh. C'est ce que nous, on a décidé de faire. On a c'est bête à 155 000 dans 405 000. Le joueur au bouton qui était encore dans le coup paye.
Ah, il paye, oui.
Et la grosse blinde paye également. On est encore 3 dans le coup. Le pot, il fait 900 000.
Ah oui.
Le turn 7 de carreau.
Magique.
Et là, la grosse blinde décide de prendre l'initiative cette fois-ci et de miser 300 000, un tiers pot. C'est à nous de parler.
Ça veut rien dire, ce qui est bizarre. Ça peut rien dire.
Donc c'est le
bizarre.
Mec, le Grossman, mise 300 000 là-dessus.
Là,
sur
il
le
prend
7,
l'initiative et il mise sur le turn 7 de carreau.
C'est quoi, il a une sorte de tirage quelque part.
Mais non, parce que si même.
Qu'est-ce qu'on fait, Moundir?
Ah, moi je colle. Je colle.
Avec quel genre de main il peut faire ça?
Parce que même s'il a 8 et 9, mais dans ces cas-là, pourquoi il mise s'il
non, mais pas, 27 left, pas 27 left d'un gros tournoi. Ouais, moi, je pense que même s'il a tirage par les deux bouts, je pense qu'il check. Il y a deux gars qui parlent derrière. Non, franchement, je comprends pas son histoire.
Et le fait que tu comprennes pas, ça te conduit à faire quoi?
À Just Call pour lui représenter que j'ai touché quelque chose.
Bah, moi, je colle aussi.
Rémi, Stephen?
Rémi?
Ça me va, ouais, mon dire convaincu, ouais. Pareil.
Ben?
Call.
Alors, en fait, c'est qu'il mise face à deux joueurs. D'accord? Donc, il mise face à deux personnes, donc face à deux ranges de mains. Donc, la range de main du C-bet, bon, on peut évidemment tout avoir, comme disait Daniel, mais après, il y a quand même une range de call au bouton qui peut avoir des mains fortes et sensiblement pas des mains qui vont fold au turn. Donc, je pense que sa mise, son donc bet turn, représente quand même beaucoup de force et moi, j'aurais plus tendance à vouloir fold et pas à m'engager dans un coup où à la river, il y aura 1,4 million au milieu avec une main qui va faire sensiblement que deux paires à la river. Okay. Et en plus, en sandwich. Ouais. En sandwich entre deux joueurs. Donc, c'est une situation inconfortable. On a 80 blindes. Ah, les problèmes, vaut mieux les laisser aux autres et pas s'emmerder, je pense, dedans. Après, voilà, ça aurait été mon point de vue. Mais ouais, après, je peux comprendre le call.
Bon, bah, on va se créer des problèmes parce que nous, on a des sites de call. Le pot est gigantesque, effectivement, près d'1,5 million de jetons. Le bouton jette ses cartes, on n'est plus que deux.
Yes.
River, une brique, deux de trèfle. Et là, nouvelle mise de notre adversaire. Encore un tiers du pot. 550 000 avancés au milieu.
550 000 sur 1 million.
Sur 1 million 5.
Sur 1 million. Il bête vite ou pas?
Il bête assez rapidement, effectivement.
Bon, alors nous, alors il faut dire dans cette histoire que Ben nous a expliqué pourquoi effectivement c'était assez convaincant. Finalement, on aurait pu s'éviter ce problème-là. Mais sauf que nous, on s'y est mis dans le problème.
Ouais.
Et comme on s'y est mis, bah, maintenant on est face à ça et il faut qu'on décide. Et après, Benjamin nous dira
là,
comment résoudre le problème dans lequel on s'est mis tout seul parce que lui, il n'y serait pas allé. Mais nous, 550, maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur les 550 dans un pot qui est aussi énorme et sur deux mises qui sont assez, en tout cas celle de 300 000 qui nous a un peu surpris. On rappelle 9, 9, 10, 7, 2. Nous, on a donc Permax là-dessus.
Permax Kicker Valley.
Kicker Valley. Qu'est-ce qui peut.
Moi, faut pas voir les 500 000. Faut voir ce qui te reste en blindes d'ailleurs. Donc, je pense qu'à mon avis, il doit nous rester une cinquantaine de blindes.
Ah oui,
donc,
même
c'est ce qui est juste monstrueux dans un tournoi.
Bon, ok, on a compris.
Moi, je pense, en réfléchissant bien, je pense que je colle, ouais. Je colle.
Et je pense que je colle
50,
aussi.
50
parce que le problème, c'est que moi, quand je me mets dans les problèmes, j'ai jusqu'au bout du problème, ce qui est certainement pas une bonne stratégie.
Mais alors moi, très honnêtement, là, j'ai le slip mouillé, je jette mes cartes.
Il y a un fold.
Il y a un fold. Rémi,
je pense que je rejoins la team Steph, moi.
Ah ouais?
Je crois que je suis capable de jeter les cartes là-dessus.
Ouais. Vous couchez maman comme
qui
ça?
Qui aura le dernier mot, Ben? Qu'est-ce que tu fais? Oh, toi, t'as déjà fold avant.
Non, mais voilà, quand on met un doigt, il faut mettre le bras. Maintenant, si on revoit, si on voit la rivage. Non, c'est vrai. Et puis, il y a la curiosité qui arrive. Maintenant, on veut savoir.
Bon, on a fait comme nos deux basketteurs. On a décidé de fold. Ah. Et on a bien fait, puisque la grosse blinde était rentrée avec 8 et 6 dépareillés et a trouvé une jolie quinte.
Ça rentre à 8 et 6 dépareillés.
Ça a juste complété. La grosse blinde,
il a 8 et 6. Donc, ça veut dire que quand
il a juste complété pour deux blindes.
On est d'accord que sa quinte, il a touché avec le 7.
Absolument.
Donc c'est quand il a mis les 300 000 oui, qu'il avait touché la quinte.
Exactement.
Et moi, j'avais, à ce moment-là, j'ai dit, il peut avoir
la
quinte aussi.
Exactement.
Ben, il a trouvé.
Bravo, lui. Donc, tu sers la main, tu dis bravo, good job.
Good job.
Mais tu fais un peu d'oseille quand même.
T'as 50 blindes derrière. T'es frais.
Merci, monsieur l'arbitre.
Merci, Ben.
Attends. Est-ce que Benjamin, t'as encore deux minutes?
Oui, bien sûr.
Ouais, justement, parce que c'était, je sais pas si on aura le temps d'aller plus loin dans le débat, mais qu'on veut faire depuis plusieurs semaines maintenant, mais j'en profite que tu es là. Justement, après une main comme ça, il y a souvent une question qu'on se pose, c'est montrer ses mains ou non. Est-ce que ça fait partie, montrer ses mains ou non, d'une stratégie genre, tiens, tu vas penser que je suis crédible pour les mains d'après, ou alors est-ce qu'il faut avoir une règle, je ne le fais jamais? Quel est ton point de vue, toi, là-dessus?
Alors quand tu as l'option de ne pas les montrer, 99% du temps il faut pas les montrer, parce que de manière générale, moins tu vas donner d'informations à ton adversaire, plus il va jouer dans le flou face à toi, et donc finalement ses décisions vont être un peu bancales. Alors que si tu lui donnes de l'information, bah, tu lui donnes des béquilles sur quoi s'appuyer et ça l'aide en fait. Que ça soit des bons jeux ou un bluff, ça ne peut que aider ton adversaire dans ses futures décisions.
Ça, c'est l'esprit poker, parce que l'esprit basket, qu'on est un peu dans le trash talk et tout ça, moi, là, un mec, je l'ai niqué, je lui montre mes cartes pour te montrer que j'ai niqué, tu vois.
faut voir si tu le niques sur le long terme.
Ah oui, ouais. Tu vois, non, mais si je peux humilier un mec.
Mais tu vois, ça, c'est les comptes basketteurs, voilà, ça, c'est comme ça.
C'est pour ça.
L'esprit NBA, il est là, quoi. Et là, il est là.
Bon, merci beaucoup, Benjamin.
Merci, Ben.
Merci d'avoir été avec nous. Comme d'habitude, c'est toujours un énorme plaisir. Et nous, on fait une petite pause, la dernière, dans ce RMC Poker Show. À tout de suite.
RMC Poker Show, Daniel Riolo et Moundir.
La fin du RMC Poker Show. On vient de se faire dans la tête d'un fiche très agréable avec Benjamin Pollack. C'est quand même la classe d'avoir un type de dimension régulièrement avec nous dans le RMC Poker Show.
Très très grand champion. Hein.
Très grand champion effectivement. Sinon Moundir avec nous, il y a toujours Rémi Reverchon et Stéphane Brun qui sont là.
Le cuir est là.
Et dans un instant, il y aura Tu Bluffes Martoni, les amis, quand même.
Célèbre.
Et les équipes, ça va être tendu ce soir.
Ah, ça va être chaud, les amis.
Hein, la semaine dernière, je crois avoir gagné.
Pardon ?
Jean-Michel Boulard. Ah non, les stations de ski.
Ah, les stations de ski.
Mais mec, les gars, les stations de ski.
Ouais, t'as été bon ?
Tu les as toutes faites. Sauf VVF, tu sais, vacances familiales.
Je sais pas du tout. Je suis pas.
Il a commencé par Cromontana.
Je suis pas vraiment ski, moi. Tu sais, c'est pas à la base, c'était pas vraiment dans ma culture. Hein. Le ski, j'ai découvert en classe de neige. Moi, je savais pas ce que c'était. Chez nous, le ski, il y a pas.
J'en ai fait qu'une, c'était en CM2, moi. C'est le reste.
Voilà. Donc, mais bon, il fallait juste en dire 7. Ça va, 7 stations de ski, c'est quand même.
C'est jouable.
Donc, on a dit 6. Non, on avait dit 6. Moi, j'en avais trouvé 4. D'accord. Lui, il a 17. Bon, on lui a dit, bon, vas-y, deal. Il les a trouvés, normal.
Bravo, normal.
Tout à l'heure, Rémi, tu nous as parlé d'un coup qui a marqué ta vie. C'était ton premier voyage à Las Vegas. Steve, ça va être à toi. Alors, je sais, chers auditeurs qui écoutaient régulièrement le RMC Poker Show, oui, Steve est déjà venu. Oui, il a déjà raconté cette main. Mais très franchement, ce serait con de s'en priver une deuxième fois parce que les belles histoires, ça se raconte toujours deux, trois fois et vraiment, ça fait toujours marrer.
Faut vraiment que je la raconte.
Moi, je la connais pas.
Chaque dimanche, dans le RMC Poker Show,
c'est le coup d'une vie.
D'abord, quand ça fait plus d'un an, on a le droit dans les dîners. On se raconte à nouveau des histoires. Et puis, Moundir, regarde, il s'en souvient même pas.
Je m'en souviens. Mais non, j'étais en tournage.
J'étais en tournage.
J'étais en Thaïlande.
Rémi, tu la connais ?
Non, bien sûr que non.
Les auditeurs, ça leur plaira de l'entendre une deuxième fois. Steve, c'est à toi.
Alors, il faut savoir qu'à cette période-là, je joue à Split en Croatie. Donc les revenus sont un peu plus supérieurs que BCM Gravelines-Dunkerque de l'époque. Et c'était un contexte très compliqué avec un coach où les entraînements c'était 2 fois 3 heures, donc je faisais pas grand chose de ma vie. Après les entraînements, je rentrais chez moi.
2 fois 3 heures par jour.
Ouais. Donc je savais que le lendemain matin il y avait entraînement, donc je rentrais chez moi et je me faisais une petite heure de poker en ligne avant d'aller dormir à 22 heures. Là je me fais un petit tournoi de cash game.
Oh, le point com, c'est énorme.
Et je joue un peu 50 minutes et je me dis allez dernière main et après je vais me coucher parce que je sais que demain je vais souffrir le martyr. Et là j'envoie, je sais plus combien j'ai, je dois avoir 100 euros en cash game, je touche un full, j'envoie mes 100 euros en pensant que j'ai gagné, je dis ah, je vais bien dormir, je regarde pas la fin de la main et je regarde, je vois 0 euros, je dis mais qu'est-ce que c'est, je vois 0 euros, je comprends pas, donc je regarde l'historique de la main,
full supérieur ou carré.
Carré. Et là, je pète un câble complet, je jette l'ordi.
Ah carrément.
Je jette l'ordi contre le mur, mais je vise mal. Ah. Donc ça passe à travers ma fenêtre.
Oh, mais non.
De chez moi. Ça brise la fenêtre et ça tombe. Et en bas, j'avais un petit resto bar. Et ça tombe sur la table où il y avait 2 clients avec des verres et ça explose tout.
J'ai tué personne.
Et là, je me dis, je suis dans les emmerdes. Je descends, j'arrive, je vois tout le monde, il y a un attroupement. Et en plus, je parle pas croate.
Non, mais il voit un gars arriver, il fait 3 mètres. Bon, c'est
et
bon.
Moi, et moi, je leur dis, je suis basketteur, je joue à Split, qui est un club mythique quand même. Et le mec me baragouine des mots, la police qui arrive et tout ça. Il est 23h30, j'ai entraînement à 9h. Alors les flics, je leur explique, ils connaissent, ils appellent mon manager général, machin, le mec il arrive, il dit qu'est-ce que t'as fait, je dis ouais, bah, l'ordinateur, il m'a glissé des mains, il est parti, Au final, j'ai payé l'addition des 2 clients et je me suis excusé, je suis remonté me coucher, il était 1h30, le lendemain matin, j'étais à la rue complet à l'entraînement.
Donc ta main 100 euros, elle t'a coûté cher quoi.
Ma main 100 euros, elle m'a coûté 250 ou 300.
250 balles, plus en plus à l'époque.
Plus l'ordi apparemment.
Non mais à l'époque.
Oui, l'ordi est galère, hein, parce que.
À l'époque, l'ordi, ça devait coûter une chlasse. Hein.
Ah, c'était 1000. 1008, 1009 quand même.
Ouais, ça va, fait cher le carré.
Ouais, ça fait cher le carré.
T'as du split, comme on dit, comme tu dis au poker, tu splits, t'as partagé. Donc c'est
et depuis ce jour-là, j'ai réussi à contrôler ma frustration, à gérer ma frustration.
Ah ouais, d'accord, mais t'as tendance à t'énerver quand tu joues, t'as tendance à t'énerver.
Pardon, tu connais Simon ou
ah non, non, il peut être sanguin.
Je peux vriller, moi.
Il était bien avec les arbitres, il était cool, Steph.
Tu sais que ma dernière saison, j'ai arrêté le basket professionnel, je suis venu jouer à Vanves en National 2.
Oh là là.
J'ai battu le record all time des fautes techniques. Je crois que j'en ai pris 12 en une saison.
Mais c'est dû à quoi? C'est pathologique. C'est une pathologie.
J'ai vu des coachs sportifs pour prendre sur moi. Non mais
c'est vrai.
Ah ouais, ah ouais. Putain. Les arbitres, ils ont frôlé la correctionnelle.
Oh là là, et dis-moi, tu crois que si tu perds, tu bluffes Martoni, ça peut te rendre nerveux ou pas?
Non, parce que là, je sais que c'est bon esprit, je suis entouré de.
Non, en plus, il est sur RMC maintenant.
Surtout que tu vas jouer avec moi, donc tu vas gagner.
Avec toi.
Ah là là, vas-y. On les tue. Vas-y.
Tu bluffes Martoni.
Tu bluffes Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite.
On a Denisio qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Denisio.
Salut Michel.
Bruno, c'est Bruno. Mais Michel, c'était bien.
Denisio, est-ce que tu veux jouer avec la team Stephen Mundir ou la team Rémi Reverchon?
Choisis bien.
Riolo.
Je avec toi.
Ah, ouais.
Ah non, je suis avec Steve, moi.
Ah, t'es Riolo, t'as perdu, je te le dis.
Ah bon, bah alors tu vas perdre.
Riolo est avec Rémi Reverchon et Stephen est avec Mundir.
Bon, ça sent les questions basket.
Vas-y, basket.
Messieurs, qui peut me citer le plus d'équipes ayant déjà remporté au moins une fois un titre NBA?
Bon, t'es sérieux?
Ah ouais, bien sûr. Bah, on va voir qui. Êtes les deux stars, vous êtes l'une contre l'autre, donc on va voir ce que ça donne.
Mais attends, on est bien d'accord. Ah,
ouais, toute équipe. Pas,
même dans les années 60 et tout ça.
Toute équipe. Vas-y, toute équipe. En fait, c'est un duel contre eux.
En fait, c'est eux deux.
Allez, aux enchères.
C'est parti.
Combien? 10?
J'en sais rien, comme ça, là, du coin de la tête, je peux peut-être monter à 8.
8.
8.
Steve, est-ce que t'as plus que ça?
On va tenter 9, non?
Ah ouais, on fait les petits bras quand même, parce qu'il y a plus que ça. Hein.
Mais je sais pas, j'ai dit 6. Si. Bon, allez-y les gars, j'en sais
rien. 10.
Est-ce qu'on monte à 10?
Ouais, vas-y, 10. 10.
Est-ce que j'ai dit franchise championne NBA? Vas-y, allez, tentons.
10. 10, 10. Non,
ouais,
10.
10, vas-y, 10.
10, à vous.
Mais non, mais il est avec toi.
Il est avec toi.
La 10.
Tu penses que t'en as pas plus de 10?
On fait.
Tu les laisses? Tu penses qu'il
pleure?
Il hésite à aller à 11.
Il y en a.
Il y en a, mais il y en a qui sont pas aussi.
Oui, bah oui. Non, mais il y en a. Il y en a, je te dis.
Bon, j'en suis pas sûr. Je tente 11. Ah, tu me fais chier,
moi. Non, on dit 11. Laisse-le tenter 11.
Vas-y, c'est bon.
12, j'y vais pas en tout cas.
11 okay. Pour eux.
Non, dis, 11,
pour...
11 y va pas.
11, okay. Vous n'avez pas plus.
Ah, okay. Tu vas me commencer, tu vas me dire les Bulls.
Non, pas du tout.
Après, je vais me démerder.
Pas du tout. Pas du tout. New York, les Knicks.
Oui.
Golden State.
Oui.
Toronto.
Oui.
Comment ça s'appelle? Chicago.
Oui.
Les Bulls.
C'est bon.
Los Angeles.
Oui.
D'accord. Vas-y, enchaîne.
C'est à peu près ce que tu avais dit.
Les Pistons.
Oui.
Oui, exactement.
Les Rockets de Houston.
Tu vas y arriver.
Oui.
Tu vas y arriver.
On est à 7.
Non, on est à 8.
Non, on est à 7. Il en reste 4.
Parce que l'auditeur en a un.
Il y en a une qui l'a dit. C'est la honte pour lui. C'est au-delà de tout.
Auditeur.
Il y en a une qui l'a pas cité, c'est la honte pour lui. C'est pas grave.
Auditeur.
Ah, les Mavs, pardon.
Ok.
C'est pas
ce que je pensais. C'est l'espère.
Il en reste 2.
Les Boston Celtics.
Les Celtics de Boston, ouais. Et Dallas Mavericks.
Non, je l'ai dit.
J'ai pas entendu.
Pas moins de dire.
Un dernier.
T'en as plein, en fait.
On a dit auditeur. Auditeur, on peut.
Auditeur, il l'a pas.
Monsieur, c'est quoi, il l'a pas, l'auditeur?
Il l'a pas, Genesio.
J'en ai déjà deux de plus, moi, au coin de la tête, là.
C'est vrai?
Les Bucks, non?
Non.
Non.
Ah, si, les Bucks. Bravo.
Oui.
20 euros à jouer sur
Winamax. Oui. Il y a quoi comme franchise?
Je pensais même à Miami qui était champion.
Miami.
Je pensais à Portland qui était champion.
Portland aussi.
Blazers.
Ah ouais, c'est plutôt pas mal.
Dallas, Baltimore, Sacramento.
Ah oui, tu partais même dans les vieilles franchises.
Ah ouais. Les Sixers.
C'est vrai. Eh oui.
Rémi, Stephen, merci beaucoup d'être venu.
Merci les gars.
Merci de l'invitation, les amis.
Merci. À la semaine prochaine, mon cher ami. Ciao. Bonne semaine à tous.
Ciao.
Minuit, une heure. RMC Poker Show.
RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.